C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 6 octobre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est une très, très belle journée, probablement une des dernières de l'année où le mercure va dépasser 20 degrés. On prévoit donc du soleil, maximum autour de 23, l'humidex 25 degrés, avec un indice UV de 4 ou de modéré. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux. Un petit peu de pluie, là, rien de très marquant durant la nuit, avec un minimum de 13. Et puis demain, vendredi, des averses qui commencent en matinée, qui devraient cesser en après-midi. Un petit peu plus venteux, 16 degrés demain, et surtout en après-midi, c'est la descente qui s'amorce. On devrait avoir 11 degrés, 2 degrés durant la nuit. Et puis pour ce week-end de l'Action de grâce, samedi, c'est du soleil 12. Dimanche, un petit peu de pluie, du temps gris 14. Et lundi, c'est du temps ensoleillé avec 13 degrés. Avant de plonger dans l'actualité ici au Québec, d'abord vous dire qu'il y a une dépêche qui est tombée il y a peut-être une heure concernant une attaque dans une crèche, une garderie, si vous voulez, en Thaïlande. C'est un assaillant qui a au moins tué 32 personnes, dont 23 enfants. C'est une histoire horrible. Les seules informations qu'on a, c'est que l'homme en question serait un ancien policier. Il aurait même tué sa femme et leur enfant avant de se suicider. Il serait donc entré dans une garderie avec arme à feu et couteau. L'attaque a commencé à 12h30, heure locale. L'assaillant a pris la fuite en voiture, a percuté plusieurs piétons. Et vous dire que les enfants qui ont été tués avaient entre 2 et 3 ans. Il n'y a pas plus de détails. C'est une horreur. C'est indescriptible, mais on essaie de comprendre pourquoi, quel est le lien entre cet homme et cette crèche, cette garderie. Donc, ça se passe en Thaïlande. Chez nous, on a comme l'impression ce matin qu'on revient aux affaires courantes après l'élection de lundi. On va beaucoup parler de santé. D'abord, The Gazette publie ce matin des chiffres concernant l'attente pour une chirurgie du cancer. Et ce qu'on peut constater, c'est en augmentation de 41% par rapport à l'an dernier. Plus que ça, il y a actuellement un patient sur cinq qui attend au-delà du délai médicalement acceptable de 57 jours dans le Grand Montréal. Ailleurs au Québec, dans certains coins, c'est même pire. Et on peut penser à Sherbrooke, on peut penser à l'Outaouais, on peut ajouter la Gaspésie et même les îles de la Madeleine. Il y a d'autres endroits où c'est mieux, mais grosso modo, alors que il y a eu beaucoup de délestage pendant la COVID, qu'on nous a répété que les cas urgents seraient toujours priorisés, que le cancer était en tête de liste, ben on se rend compte, puis je me souviens avec Dr Martin Champagne, oncologue, on avait discuté de ça, de l'impact des diagnostics qui arrivent trop tard, des chirurgies qui sont repoussées, des traitements qui sont pas nécessairement ceux qui sont indiqués, ce qui amène des gens chez qui on a un diagnostic tardif à avoir peut-être un moins bon pronostic. Mais ça veut dire qu'après avoir soufflé un peu, on se rend compte que l'attente, et si c'est votre cas, là, vous n'êtes pas seul. Plusieurs Québécois attendent et attendent et attendent pour avoir une chirurgie de cancer. Première nouvelle ce matin. D'autre part, vous avez la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui publie une lettre ouverte signé par leur président, le Dr Vincent Oliva, mais aussi par l'ensemble des associations, des présidents, présidentes d'associations dans toutes les disciplines. Puis j'ai envie de résumer ça ce matin en vous disant, vous êtes patient, puis vous vous cherchez un médecin. Des fois, c'est un généraliste, puis parfois aussi, c'est un spécialiste, puis vous attendez, vous attendez. Mais là, de l'autre côté, vous avez des médecins qui nous disent ce matin qu'eux attendent, qu'eux aussi cherchent des patients. Je reprends des extraits de la lettre. Docteur Oliva sera avec nous tantôt. Chaque jour, des médecins spécialistes foulent le sol d'une salle d'opération, d'une salle d'endoscopie, d'un département d'imagerie, d'une clinique externe pour se rendre compte le matin même que l'horaire prévu est incomplet. Des tests préopératoires non disponibles, annulation par manque de planif ou encore en raison d'équipements manquants. Pourquoi un patient doit-il multiplier les relances pour savoir quand et où il sera soigné? Qu'est-ce qu'on répond à un patient qui est en détresse, à qui on propose un transfert plutôt qu'un début de traitement? Et là, on peut évidemment penser à Amélie Champagne, toute cette histoire terrible, cette jeune femme qui s'est enlevée la vie. Discussion autour d'un code postal et malheureusement, donc, à 23 ans, 22 ans, elle s'est suicidée. Comment se fait-il qu'en plus d'un choc lié à l'annonce d'un diagnostic de cancer, un patient est obligé de faire lui-même les requêtes aux archives de l'hôpital pour faciliter l'accès à son dossier médical intégral? Je pourrais vous faire une liste longue et tout ça est écrit au lendemain de la victoire de la CAQ, quelques mois après le dépôt du plan du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et ça se termine en disant, quant à nous, dans chaque salle de traitement qui sera rendue disponible, un médecin spécialiste sera là pour prendre soin des patients. C'est simple, nous voulons vous soigner. Ben, c'est simple, nous voulons être soignés, puis nous voulons voir des médecins. Mais il y a quelque chose, encore une fois, puis c'est toujours, toujours un peu le même constat. T'as quelqu'un qui est malade qui veut être soigné, puis t'as des médecins qui veulent soigner, puis t'as l'ensemble du personnel. Mais t'es pas capable de faire la jonction entre les deux. Et donc, le patient, il est frustré à bien des égards. J'avais une discussion avec un ami qui magasine actuellement parce qu'il a besoin d'avoir un résultat de test. Son médecin dit, ben ça me prend ça pour avoir... Ouais, mais l'attente au public, ben finalement, il va au privé, puis il paye de sa poche une coupe de 100 piastres. Parce qu'on n'est pas capable d'arrimer le besoin du médecin et la capacité de fournir le résultat d'analyse. Puis ajoutons que dans la presse ce matin, on nous explique que pour certaines chirurgies, on est obligé de procéder à des soins dentaires. Mais c'est pas payé. Donc, il y a des opérations qui ont dû être reportées parce que des patients n'avaient pas les moyens de payer leurs soins dentaires avant la chirurgie. Un patient du CHUM a été hospitalisé aux soins intensifs, pneumonie, péricardite, inflammation de la membrane qui enveloppe le cœur, et ce serait lié à une infection d'origine dentaire. Tout ça est indispensable quand on a un traitement. Donc, de faire le bilan, quel est l'état de votre bouche avant qu'on commence à faire des traitements, par exemple, pour le cancer. Et actuellement, il y a les gens qui sont atteints d'un cancer de la tête et du cou. Ça, c'est payé par la RAMQ. Pour les autres, non. Essayez de comprendre pourquoi. Là, il y a sans doute un fonfon, un bureaucrate qui a fait de la gymnastique intellectuelle puis qui a trouvé qu'on va en considérer deux. Tu sais, quand je vous parle du le manque d'humanisme. Donc, on t'opère pas parce que t'as pas les moyens de te faire soigner, d'avoir peut-être un traitement, une chirurgie avant le traitement principal. Donc, dans la presse, vous retrouvez ça ce matin. Maintenant, les taxes. L'hypocrisie fiscale de la Ville de Montréal est toujours assez extraordinaire. Rappelons-nous que le rôle d'évaluation a été présenté et votre maison, votre duplex, votre triplex, votre condo, les prix ont explosé. On le savait. On voit le marché, on n'est pas imbécile. La Ville de Montréal nous dit, ben, ça sera pas une augmentation de 30-40%. Mais non. Oui, mais combien? Ah, c'est pas encore. On va vous déposer le budget. Et là, ça commence à suinter. Parce que Montréal, c'est une valse en deux temps. D'un côté, les arrondissements, appelons ça la taxe locale, et la taxe globale de la ville, donc la ville-centre, ça c'est Montréal. Et dans la presse ce matin, on nous donne des exemples d'augmentation de quelques arrondissements, là, c'est pas encore complété. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, 14%. Rosemont, La Petite-Patrie, 13%. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 12%. Outremont, 11%. Là. Alors, ce sont des augmentations qui vont se traduire par une hausse, par exemple, de 41$, de, ça dépend où vous habitez, 60$. Ça peut être aussi une augmentation de 80$. Ça, c'est pour la taxe locale. On attend toujours la grosse facture. Et ce sera de combien? Ce qui fait que l'augmentation actuelle est quand même importante. Et je ne veux pas entendre un seul élu venir, comme l'avait fait Benoît Doré à l'époque, dire qu'une coupe de 100 piastres, il n'y a rien là, puis si tu n'as pas les moyens, ben tu es trop pauvre pour rester à Montréal. OK? Vous allez ajouter à votre budget cette année quelques centaines de dollars de plus de taxes municipales. Ça, c'est minimal. Et on ne s'interroge que rarement sur la productivité, la pertinence de l'ensemble des dépenses de la Ville de Montréal. Et je sais que Montréal n'a pas 30 000 sources de revenus. C'est la taxe foncière puis quelques autres affaires, mais c'est peu. Mais est-ce qu'on peut réaliser, encore une fois, que ça coûte cher vivre à Montréal? Puis dans le contexte actuel, je regardais ce matin, là, les vêtements d'hiver vont coûter plus cher. L'épicerie, on sait que ça coûte plus cher. Les taxes vont augmenter. Les tarifs dans les arrondissements vont aussi augmenter. Fait que c'est un peu la stratégie Philippe Couillard. On te présente ça comme un petit café, mais à la fin de la semaine puis du mois, ça fait une immense cafetière. Et les gens se retrouvent avec des comptes à payer qui sont de plus en plus lourds. Et pour des personnes, par exemple, retraitées, des gens qui, malheureusement, ont des revenus qui fluctuent pas beaucoup, et même avec ce qui s'est passé à la bourse, ont peut-être baissé, ben c'est stressant puis c'est assez inquiétant. Alors voilà pour ce qui est du volet. Puis là, je parle de Montréal, ça doit se ressembler beaucoup dans l'ensemble des villes du Québec. Très bien. Hey, tu restes avec nous parce que je veux te parler de cette nouvelle qui est dans le Journal de Montréal de ce matin concernant ce programme qui vise à implanter le brossage de dents tous les jours à l'école. On parle des garderies, là, puis on parle aussi des écoles primaires en raison du nombre élevé de caries, semble-t-il. Oui. Et que là, s'inquiète. Là, tes enfants, toi, vivent ce programme-là.
Oui, en fait, ben c'est ça. Ça s'est produit à l'école. C'est une activité de dépistage qui a eu lieu avec une hygiéniste dentaire. Un formulaire qu'on a reçu. C'est volontaire. Faut accepter là comme parent que notre enfant soit vu par l'hygiéniste en question. Et ensuite, là, suite à cette activité de dépistage, il y a une réponse concernant l'admissibilité de l'enfant au programme en question. Alors, on demande, brosses-tu tes dents? Vas-tu, est-ce que tu vois un dentiste? Est-ce que tu connais bien l'hygiène buccale? Et tout ce genre de trucs. Et ensuite, ben, il y a une décision qui est prise. Dans le cas de mes enfants, ben, on n'est pas admissible au programme. Heureusement, je dirais, parce qu'on s'en occupe bien. Mais j'ai comme l'impression là, que c'est pour attraper peut-être certains enfants qui n'ont pas cette chance.
OK, merci de cet éclairage, comme on dit, terrain, parce que il y a beaucoup de profs qui réagissent pas très bien à ça. Ouais. Et des profs qui disent, écoutez, on en a plein les bras actuellement avec les classes. On est surchargé. Là, c'est pas sérieux d'ajouter le brossage de dents. On comprend là, que la santé des dents, c'est important, puis que l'hygiène dentaire, c'est majeur, puis bon. Ça fait partie des habitudes de vie, puis mais en même temps, tu dis, est-ce que c'est aux profs de faire ça, ou au personnel de l'école, peu importe, là, de superviser au quotidien le brossage de dents? Oui, on dit, mais ça va sauver probablement des coûts puis des traitements. OK. Puis, me semble qu'on en demande beaucoup à l'école puis beaucoup au personnel. Et dans un contexte comme ça, même si la cause peut paraître bien correcte, tu te dis, on est-tu rendu là, là? Faut avoir un programme pour se brosser les dents, puis quoi, se brosser, se laver les mains à l'école, puis avoir un... Ça sera à l'infini, là, ce qui est bon pour l'enfant, puis ce qu'il retrouve peut-être pas dans son milieu. En tout cas, alors, on a ça ce matin. Hockey Canada, on en a parlé avec Alain, c'est pas trop compliqué. C'est un lobby puissant qui se protège derrière, depuis le début. Il y a le ministre Pascal Saint-Onge qui veut une enquête du commissaire, mais une enquête générale sur les abus dans le sport. On parle beaucoup du hockey, mais il y a eu des signalements depuis, je dirais, un certain temps. Là. En tout cas, elle dit depuis qu'elle est en fonction. Et ça concerne 8 sports différents. Il y a le bobsleigh, l'aviron, la boxe, le rugby, le soccer, le ski alpin, le skeleton. Et ça va, là, de question d'abus physiques, d'abus psychologiques. Et il y a ce commissaire-là. Pour ce qui est de Hockey Canada, là, on a vu la position de Québec. L'Ontario, en juillet, a averti le président du Conseil, qui n'est plus là, là, mais qui était là à l'époque, M. Brindamour, qui n'a pas jugé bon partager l'information, alors que l'Ontario disait, ben nous, on vous suit plus là dans votre façon de faire, puis on va jouer l'argument financier, on va retenir des sommes. Hockey Québec a fait la même chose. Les deux plus gros joueurs mettent de la pression financière. Le fédéral a retiré l'argent. Tim Horton et la Banque Scotia ont annoncé qu'ils arrêtaient de payé pour le hockey masculin. Ça, ça inclut un championnat du monde. Ils ont de l'argent, là. Ils sont pas dans le trouble. Ils vont être capables de survivre. Mais est-ce que les votes des fédérations, dans l'Ouest, c'est assez silencieux pour l'instant, on va être capable de renverser ces gens-là? Ils sont seuls contre tout le monde. Ils ont réussi ce tour de force de mobiliser, je dirais, l'ensemble des intervenants contre eux, contre cette culture du silence, puis ces secrets de compte à l'intérieur de Hockey Canada. Maintenant, on sait, et on en a parlé tantôt, que quand on regarde la situation de certains médicaments, c'est rare puis c'est difficile à trouver. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe avec, je pense entre autres à des produits comme le Tylenol, l'Advil, le Motrin, malheureusement, il y a des tablettes vides. Puis il y a eu aussi une crise pour les médicaments pour enfants. Et là, il y a un débat à Ottawa, je le résume rapidement. Et Justin Trudeau n'a pas dit non, mais ce sont les conservateurs qui proposent de faire une exception temporaire, là, dans le temps, pour qu'on puisse prendre des médicaments qui ne sont pas, en termes d'étiquetage, bilingues. On pourrait prendre des boîtes d'Advil, étiquette en anglais seulement, et là, tenez-vous bien, on dit, ben, le pharmacien pourra mettre une précision et faire lui-même la traduction ou transférer dans des contenants avec une information en français. Tout ça avec le principe, aimes-tu mieux avoir un médicament et explication en anglais seulement, ou aimes-tu pas avoir de médicaments? C'est quoi ton choix? Puis là, il y a le NPD qui s'oppose en disant, ouais, mais il y a une question de sécurité, puis là, il y a des pharmaciens qui tapent du pied. Alors, il y a ce débat pour essayer de combattre cette pénurie. Rapidement, le dossier des serres de Longueuil. Hier, on en a parlé avec un expert qui a dit, écoutez, c'est pas une partie de plaisir, là, d'aller abattre des serres, mais l'écosystème est complètement chamboulé, ça fait longtemps qu'on le dit. Puis ces serres-là ne pourraient pas vivre dans un autre habitat. Ils vont mourir, donc c'est mieux d'y aller de façon organisée puis de procéder à l'euthanasie. Alors, la SPCA qui porte la décision en appel, et aussi dans le Journal de Montréal, vous avez des gens à Saint-Bruno, là, on a beaucoup parlé de Longueuil, mais Saint-Bruno aussi, dans le secteur du parc du Mont-Saint-Bruno, vous avez des gens qui se font bouffer le potager par les serres qui se promènent comme si c'était un terrain de jeu. Et puis, je vais revenir aussi tantôt sur l'histoire de ce chargé de cours de McGill qui s'est réjoui sur les réseaux sociaux. Ça a disparu depuis, là, mais de la mort de femmes en Iran. Si c'est pas une forme de haine, là, je me demande c'est quoi, là. Puis quand on sait ce qui est arrivé avec ce prof à l'Université d'Ottawa concernant certaines lectures qui avaient certains titres de livres puis certaines approches qui avaient indisposé les élèves, puis elle, on te l'avait suspendu assez rapido. Ben, ce chargé de cours, là, McGill, qui ne veut pas parler, bien sûr, la sacro-sainte institution, dit, ben, on n'est pas encore sûr, on fait une enquête, puis pour l'instant, on ne touche pas à ce chargé de cours. Sérieusement, là, il y a des captures d'écran qui ont été faites. Il est heureux de voir que des femmes meurent sous la répression en Iran, et que ces femmes sont à la première ligne de front de ce combat contre l'intégrisme. Et lui, à l'Université McGill, il tape dans les mains parce qu'il y a des femmes qui sont assassinées. Puis il va continuer d'enseigner.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
C'est un peu un retour aux affaires courantes ce matin avec le dossier de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre ouverte de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui est publiée. Et on peut résumer ça de la façon suivante. Vous, comme patient, vous cherchez un médecin de famille, pas facile à trouver. Avoir une référence pour aller voir un spécialiste, ça peut être long. Mais là, on découvre de plus en plus qu'il y a des médecins spécialistes qui sont prêts à voir plus de patients. Mais disons que le système génère un lot d'obstacles. Le président de la Fédération des médecins spécialistes est avec nous, Dr Vincent Oliva. Dr Oliva, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous dites d'entrée de jeu dans la lettre que presque chaque jour, là, je vais citer la lettre, là, il y a des médecins spécialistes dans les salles d'opération, dans les salles d'endoscopie, de départements d'imagerie, de cliniques externes, qui sont là puis qui se rendent compte le matin même que l'horaire prévu est incomplet, donc les patients sont pas au rendez-vous. parce que les tests préopératoires, pardon, ont pas été faits. Il y a des annulations, il y a un manque de planif. Donnez-moi, là, puis donnez aux auditeurs des exemples concrets de ce que ça veut dire.
Ben, ça veut dire qu'on arrive le matin, puis dans le fond, on regarde le booking, ça veut dire l'horaire qu'on a devant nous, puis on se rend compte qu'il y a des trous dans l'horaire, qu'il manque des patients. Et on apprend les raisons pour lesquelles les patients manquent. Et il faut comprendre qu'on contrôle pas le système dans le sens où nous, on donne nos listes de priorités, puis les patients, après ça, sont prévus en fonction de ce qui a été donné comme priorité. Mais ça dénote qu'il y a des manques d'organisation dans le système. Parce qu'on parle beaucoup des ressources, il manque de ressources, je vous apprends rien, puis tout le monde le dit, mais je pense qu'il faut passer au-delà de ce discours-là puis de se dire, avec les ressources qu'on a, on peut faire beaucoup mieux.
Si je prends un exemple théorique un peu, ça veut dire que vous, comme médecin spécialiste, vous arrivez le matin puis vous dites, aujourd'hui, je vais traiter 6 patients, disons. Puis dans les faits, il y en a seulement 4.
Exact. Ça arrive très souvent.
C'est pas une anecdote, là.
C'est pas une anecdote. Puis d'ailleurs, je vais parler quand même un petit peu du privé, puis je suis pas là pour faire la promotion du privé. Il faut faire des distinctions. Il y a le privé où les patients payent, mais une large part du privé où les patients payent pas. Puis quand on a par exemple des programmes opératoires pour des clientèles comparables au public puis au privé, ben dans le privé, ils font 2 ou 3 patients de plus dans les mêmes plages horaires pour des clientèles comparables. Ça veut dire que quelque part, il y a une approche clientèle, il y a une culture d'entreprise qui manque peut-être dans le réseau.
Mais là, ça se résume par un mot, c'est la bureaucratie, c'est le système qui est lourd, c'est le système qui n'est pas capable de, j'allais dire, de rendre ça efficace.
Ben, écoutez, je pense qu'on est obligé de dire que oui, il y a un manque d'efficacité dans le système. Est-ce que c'est la bureaucratie? Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une centralisation. On sait qu'il y a eu une centralisation. On sait qu'il y a eu beaucoup plus de décisions qui ont été portées au gouvernement, au ministère, versus la gestion qui se passe sur le terrain. Donc, effectivement, je pense que les décisions se prennent en haut lieu, pas assez proche du terrain. Parce que ces anecdotes-là, qui deviennent de plus en plus fréquentes, quand on parle aux gens du ministère, ils les entendent, ils sont au courant.
Qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Ben, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils nous répondent? C'est drôle parce qu'on dit tout le temps, le patient est au centre des priorités, mais il n'y a personne qui pense le système en fonction du patient. Le parcours du combattant, le patient là, qui cogne à une porte, qui appelle, qui veut savoir quand son rendez-vous se passe, qui se fait annuler à la dernière seconde, on dirait qu'on ne suit pas son parcours puis qu'on se dit, ben ça, faut corriger ça. T'sais, ça n'a pas de bon sens qu'un patient arrive à son rendez-vous puis finalement, il est supposé avoir une intervention puis on l'annule parce que ses tests n'ont pas été faits ou ses tests sont pas beaux, finalement, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait une transfusion ou autre. Mais le patient, lui, il n'y a rien à voir avec ça. Il est juste victime d'un système qui n'a pas été assez efficace. Fait que c'est... Puis là, il faut faire des nuances. Là. T'sais, on a un excellent système de santé. La qualité est excellente. Là. Puis je veux dire, sauf des rares exceptions, vous parlez à n'importe qui, ils vont vous dire, nous, quand on est rentré dans le système, les soins sont extraordinaires, les gens sont gentils.
Le problème, c'est d'entrer,
puis je veux dire, le patient qui se fait reporter 2-3 fois, là, lui, ben son expérience est mauvaise.
Je vous raconte une anecdote, là, puis à la lumière de ce que vous dites, c'est peut-être pas un cas isolé, c'est un jeune père de famille qui avait un rendez-vous à l'hôpital pour une intervention, puis son médecin devait avoir reçu les résultats de tests, puis ils avaient pas. Puis il a dit, si je les ai pas, ça va être dur pour moi de procéder. Puis là, il l'a promené sur les étages, va à tel département, c'est pas normal que le patient, à la veille d'une chirurgie ou d'une intervention, se promène comme ça pour trouver des résultats.
Absolument. On est tanné de ça. Les médecins, moi, les 35 présidents d'association, puis le terrain, ce qu'ils nous disent, c'est on n'accepte plus ça. Le concept de la liste d'attente, là, à un moment donné, il est allé trop loin. On s'habitue à ça, mais on ne devrait pas s'habituer. Il ne devrait pas y avoir d'attente.
Je vais parler des cas de cancer. La Gazette dit ce matin que c'est en hausse de 41%, que un patient sur 5, c'est plus que le temps médicalement acceptable. Ça ne s'améliore pas. 2 questions. D'abord, c'est quoi la recette? Une fois qu'on a fait le constat que c'est mal géré, que c'est pas optimalisé, on fait quoi?
Ben, les solutions, on les connaît. Je veux dire, vous avez vu le rapport Dubé, il y a 52 recommandations là-dedans, puis d'ailleurs, c'est des recommandations qui datent du rapport Claire qui a été produit en 2001. Fait que, puis vous lisez ça, là, puis c'est le jour de la marmotte, là. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire dans le réseau. C'est juste qu'on le fait pas, ou on le fait pas de la bonne façon, et ça fait en sorte que 20 ans plus tard, on a à peu près les mêmes constats. Donc là, nous, ce qu'on dit, c'est on sonne l'alarme, là, on sort le drapeau rouge, puis on dit jamais le réseau a été dans cet état-là. Puis il faut premièrement se relever les manches et puis les mettre en application, ces priorités-là. Puis nous, on rajoutera pas des priorités à celles qui ont été là. Toutes les priorités qui sont identifiées.
Concrètement, ça passe par quoi? Un sommet de la santé au Québec? Ça passe par, je sais pas, moi, des...
Je pense pas. Je pense que les constats sont là. Je pense que c'est le temps de les mettre en application. Je pense d'ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé la création d'une agence. Fait que ça, voyons ce que ça va donner parce que évidemment, puis là, je veux pas être cynique, mais c'est comme la personne qui fait faillite qui recommence sous un autre nom. Là, on espère que ce sera pas ça, mais autrement dit, de diviser le ministère et puis d'envoyer une partie de ces employés-là pour la mise en opération. Mais chose certaine, il faut que les décisions qui soient prises écoutent davantage le terrain.
Vous dites, quand on navigue dans ce système-là, on se rend compte que le patient, là, mis à part les discours, n'est pas vraiment là, au cœur des décisions puis des priorités. Le titre de votre lettre, c'est « Refuser de s'habituer à l'inacceptable ». Se peut-il que dans la machine, on perd la notion de l'humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas rejoint le patient, c'est pas grave. Ça fait 4 fois qu'on annule sa chirurgie, c'est pas grave. Ça fait des mois qu'il attend que sa qualité de vie. Ceux qui gèrent ça ont perdu l'idée que on parle d'être humain, là.
On est en train de la perdre. Puis on savait que le système, c'est un système universel, donc évidemment, il faut gérer le volume de patients et tout ça. Ça, on le sait depuis longtemps, puis je pense qu'on s'en tirait pas si mal, mais faut quand même pas oublier que, oui, la pandémie a pas aidé, mais avant la pandémie, le système n'était pas parfait.
Non.
C'est juste que là, les chiffres se sont multipliés. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, le patient, malheureusement, une fois qu'il est rentré, c'est parfait.
Correct.
Mais tant qu'il n'est pas rentré, puis justement, les manquements qu'on discutait tantôt, le patient qui a pas tous ses tests, qui est annulé puis qui n'est pas remplacé par un autre et tout ça, le réseau le gère comme un numéro. C'est plate à dire, là, mais c'est une approche très, très...
Avez-vous déjà mesuré le temps perdu par un médecin spécialiste dans une semaine? De dire 10% de sa charge de travail n'a pas été faite parce qu'il n'y avait pas de patient.
Ben en fait il y a plusieurs associations comme l'Association médicale canadienne qui mènent justement des campagnes pour documenter tout ce qu'un médecin fait dans sa journée qu'il devrait pas faire là, puis c'est à peu près 20 à 30% de son temps qui fait des choses qu'il devrait pas faire. Pardon, soit de la bureaucratie, de la paperasse.
Mais du temps perdu là parce qu'il devait travailler 8 heures aujourd'hui en bloc opératoire, puis finalement c'est 6 parce qu'il n'y a pas de patient.
Regardez, M. Arcan, là, il y a des chirurgiens là qui ont une priorité opératoire par mois.
Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps?
Ben, ils font de la clinique, ils voient des patients, mais c'est sûr qu'ils voudraient opérer. Puis là, je parle de la chirurgie, mais en endoscopie, c'est la même chose. En clinique externe, c'est la même chose. Il y a des groupes de médecins qui se font dire « On n'a plus de place pour faire vos cliniques externes. Allez faire ça dans le privé. » Actuellement, là, ça se passe au Québec. Là. Ça veut dire que quelque part, faut arrêter juste de parler du manque de ressources. Il faut parler de l'organisation des soins.
J'ai un cas, puis encore, je me rends compte que c'est pas une anecdote. Quelqu'un qui se fait dire par son médecin, j'ai besoin de tel examen. L'attente au public est de 3 mois, donc le médecin peut pas le voir avant d'avoir ce résultat. Au privé, il y a un rendez-vous en 48 heures, ça lui coûte 300-400 $ de sa poche, puis le résultat est envoyé à son médecin. Ça marche pas, ça?
Ben, c'est exactement. Puis quand je disais tantôt qu'il faut avoir l'approche clientèle, je pense que c'est la culture du réseau qui doit changer. Puis, dans l'annonce de la création de l'agence, j'espère que c'est vers ça qu'on va se diriger et que l'agence va avoir une approche clientèle, une vraie priorité patient. Donc, une culture, peut-être une culture d'entreprise, là.
Je veux vous donner un exemple. Parce qu'on dit, oui, c'est vrai que quand on est admis, on est traité, règle générale, la qualité est au rendez-vous. Amélie Champagne, cette jeune femme-là, 22 ans, elle parle de suicide, elle fait une tentative de suicide, puis on décide de pas la garder à l'hôpital à Sherbrooke, sous prétexte, semble-t-il, qu'il y a un enjeu de code postal, puis qu'on n'a pas une place pour la transférer à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame, puis finalement, elle s'enlève la vie. Elle est entrée dans le système. Comment ça se fait que le système s'est comporté comme ça? Vous parlez là de l'inacceptable puis le manque d'humanité. C'est un exemple, ça?
Oui, tout à fait. C'est un exemple. Puis j'ai écouté le récit de M. Champagne puis j'avais la mâchoire un peu décrochée, honnêtement. Là, j'ai moi-même plusieurs enfants puis je peux pas m'imaginer la douleur de ce père-là puis de cette famille-là. Puis il y a tout un aspect de la gestion du risque suicidaire là, qui est pas mon domaine puis que je sais qu'il est très compliqué puis c'est pour ça que je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait une enquête publique puis on va voir est-ce qu'il y a eu des ratés mais moi ce qui m'a frappé de cette histoire là c'est la façon dont cette famille là ce père là et cette fille là se sont sentis rejetés par le système c'est ça qui m'a frappé.
C'est le mot utilisé, j'ai pas Absolument. Été échappé, on m'a rejeté.
Exactement. Puis ça m'a frappé parce que quelque part je pense qu'ils l'ont pas pris au sérieux. Elle a pas été crue. Tu sais, qu'un patient, tout le monde en échappe, là. Puis, je veux dire, il y a personne qui est parfait. Les médecins sont pas parfaits. Puis, c'est possible. Oui, on a des complications de temps en temps. Puis, il y en a des fois des suicides qui sont échappés parce que le risque a pas été bien évalué, parce que c'est quelque chose de très complexe. Mais le fait qu'elle se soit pas sentie écoutée, que cet homme-là soit allé dans un système où on l'a mis en doute, mais d'une façon peu humaine, c'est ça qui m'a frappé, puis c'est ça qu'il faut changer.
Docteur Oliva, merci d'être venu ce matin. Vincent Oliva est le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
J'ai l'impression que c'est du déjà vu, mais qu'est-ce que vous voulez? On apprend ce matin dans The Gazette que la liste d'attente pour les chirurgies de cancer s'est allongée de 41% sur une période d'un an et demi. C'est un patient sur cinq qui attend actuellement au-delà de ce qui est médicalement acceptable, ce fameux délai de 57 jours. Et pour avoir fait plusieurs entrevues avec notre invité de ce matin concernant les impacts de la pandémie, le fait qu'il y a des diagnostics qui sont retardés, qu'il y a du délestage, donc, des diagnostics qui arrivent tardivement, avec un pronostic moins bon. Tel traitement aurait été utile à telle époque, mais là, il faut penser à un autre plan, une autre stratégie, donc un impact sur la qualité de vie de ces patients. Ça semble, en tout cas, se concrétiser. Il y a eu comme une espèce, d'après les chiffres, en tout cas, amélioration, et là, on est retourné dans des situations qui n'ont pas d'allure. Docteur Martin Champagne est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Docteur Champagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Êtes-vous étonné, j'imagine que non, là, de voir une augmentation comme ça de 40% sur une période d'un an et demi?
Je suis pas étonné, mais je suis certainement découragé parce qu'il faut mettre en place des mesures vraiment importantes pour corriger ça au plus tôt. Et j'ai été sidéré de voir que le porte-parole du ministère de la Santé nous annonçait que ça faisait partie d'une certaine normalité. C'est tout sauf vrai, cette chose-là. Quand on regarde les cancers, durant la pandémie, on a temporisé autant qu'on pouvait, donc le bilan et le traitement de certains cancers. Si on prend l'exemple du cancer de la prostate, si vous avez eu un diagnostic il y a 18 mois, les patients qui étaient, du point de vue biologique, à risque de développer des complications rapidement ont été traités, mais un certain nombre de patients se sont fait offrir, par exemple, de l'observation. C'est-à-dire, on permet simplement de suivre votre APS là, par des tests sanguins, là, donc la mesure du cancer de la prostate, si on veut. Puis, on s'est permis d'attendre. Ces patients-là, on voit, certains d'entre eux sont en train de progresser et ils ne peuvent plus attendre. Donc, si du point de vue biologique, on peut dire que certains cancers parfois peuvent être mis, j'allais dire, sur la glace, là, du point de vue biologique, je sais pas du point de vue humain, mais on peut dire à un patient, tu peux attendre un peu, ça comporte pas un risque. Les patients qui sont maintenant sur la liste, ce sont des patients qui ne peuvent plus attendre.
Mais docteur Champagne, OK, oui. Si je vous dis, puis on pourra trouver toutes les raisons, là, la pandémie, etc., etc., les patients de cancer au Québec n'ont pas toujours eu le traitement optimal qu'ils auraient dû normalement recevoir.
Assurément pas en termes de délai. On peut pas accepter. Si je vous annonce demain matin que vous avez un cancer, la première chose que vous voulez, c'est qu'on sorte cette bébête-là de votre corps. C'est si vous voulez être traité. Et là, ça fait des années qu'on accepte, qu'on fait des compromis en disant on attend, mais c'est pas normal de dire que le cancer peut attendre. La lutte contre le cancer, c'est une lutte contre la montre. Si vous regardez le cancer du poumon métastatique non traité, la survie, donc en général, elle n'est que de quelques mois. C'est une urgence médicale. Avec un traitement, votre survie peut dépasser 2 ans. Donc, il faut pouvoir intervenir très rapidement. Présentement, je vois dans ma clinique des patients pour lesquels les scans, donc les tests d'imagerie qui ont été faits pour voir l'étendue de la maladie, sont tellement vieux lorsqu'ils aboutissent dans mon bureau que je dois reprendre cette imagerie-là. Ça n'a pas de bon sens.
On a eu plusieurs échanges, pardon, vous et moi, durant la pandémie, et à chaque fois, vous m'avez dit, puis c'est pas ça, vous me corrigerez, là, que le fait qu'il y avait des retards de diagnostic, le fait qu'il y avait du délestage, une des conséquences, c'est que des gens qu'on aurait pu traiter assez rapidement, parce que le cancer était rendu à un stade moins avancé, on a pris du retard, et ce qui était le traitement peut-être idéal au départ, ça s'est gâté, puis le pronostic est moins bon pour ce patient-là. C'est ça que vous m'avez dit, je pense.
Assurément, puis j'ai des témoignages à cet effet-là. Les urologues, par exemple, qui traitent les cancers de la prostate, vont vous le signaler. Il y a beaucoup de cancers de la prostate qui ont progressé dans l'attente, dans l'observation. Alors oui, il y a un grand nombre d'urgences médicales oncologiques au Québec, dans le sens qu'il faut se presser à mettre en place des mesures pour rattraper le retard.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment on fait ça? C'est vous qui êtes le président de l'association, vous êtes sur le terrain. Là, comment on rattrape ces cas-là?
Bon, il y a toujours une question de la main-d'œuvre qui est un problème très particulier, puis qui peut pas se résoudre très rapidement. Il y a peut-être augmenté l'efficience des blocs opératoires, assurément, augmenté les heures d'ouverture des blocs opératoires. Présentement, si vous, il y a des scans qui se font, des tests d'imagerie qui se font le soir, la nuit, une salle d'opération pourrait fonctionner sur de plus grandes heures. Est-ce qu'on doit faire appel à des retraités, qui on prend comme main-d'œuvre? Je pense que on voit que la main-d'œuvre qui est dans les hôpitaux est exténuée, ceux qui sont encore en poste, fait qu'il faut trouver d'autres ressources, mais ces solutions-là peuvent exister.
Bon, je lis ce matin dans la presse, là, puis j'avoue que j'ai pas mal sursauté, qu'il y a des patients, par exemple, pour des traitements ou des interventions là, de cancer, patients qui ont besoin de chimiothérapie, pour qui on doit faire un examen dentaire, à qui, dans certains cas, on doit faire des interventions de soins bucco-dentaires, nettoyage, extraction, parce que c'est directement lié à la chirurgie, puis on le fait pas pour certains patients parce qu'ils ont pas l'argent. Donc, si tu payes pas, t'as pas ta chirurgie?
C'est une problématique pour plusieurs cancers. Donc, en fait, la bouche n'est pas propre. C'est une source d'infection constante. Pour plusieurs cancers qui nécessitent soit une radiothérapie ou une chimiothérapie pour un cancer de la bouche, vous allez créer un dommage au niveau des dents de la mâchoire. Il est essentiel que ces patients-là soient traités avant d'amorcer leur traitement contre le cancer, parce que ça amène plusieurs complications. Il existe aussi des traitements, par exemple, si vous avez des métastases aux os, qui vont augmenter votre qualité de vie, diminuer votre risque de progression et de fracture au niveau des os, mais qui vont créer des dommages au niveau de la mâchoire si vous avez pas une restauration dentaire. Alors, présentement, ces patients-là, s'ils n'ont pas les ressources financières, effectivement, il faut faire des choix, des compromis. C'est un enjeu qui perdure depuis... moi, ça fait 30 ans que je pratique l'oncologie. Ça fait 30 ans que c'est pas résolu, cette chose-là.
Incroyable. Mais est-ce que je comprends que les... J'essaie de comprendre la bureaucratie, que les adultes qui ont un cancer de la tête et du cou, c'est payé, les soins bucco-dentaires, mais pour les autres, non.
C'est juste.
Mais ça n'a pas de bon sens. C'est quoi le rationnel de ça?
Ben là, il faudrait voir quelle est la version économique en termes de coût que le ministère fait de cette chose-là. Mais il y a des besoins à plusieurs égards. Le cancer donc a un impact financier important pour nos patients. Ils doivent arrêter de travailler, ils ont un support familial, etc. Les patients donc n'ont pas les ressources financières en général. C'est un enjeu majeur pour la grande majorité des patients avec cancer au Québec.
Merci, Dr. Champagne. Bonne journée. Dr. Martin Champagne est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. C'est quand même assez hallucinant, là. Tu as un traitement de cancer payé par le système public, et pour te donner ce traitement-là, on doit te faire un traitement bucco-dentaire, extraction, nettoyage, mais ça, c'est pas payé. Sauf si c'est un cancer du cou de la tête. Ça, c'est payé par la RAMQ. Les autres cancers, non. Et ça coûte des sous, et t'as pas l'argent. Donc, t'as pas le traitement. J'ai l'impression qu'on fait toujours le même débat, là, mais disons que ce sont des exemples assez concrets de ratés dans le système, là. Puis en l'espace de quoi? Même pas une demi-heure, on a fait le tour de pas mal de ces ratés.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Je reviens sur la situation en Iran. Encore une fois, les images filtrées qui nous arrivent. Je regarde ça par le biais, entre autres, de deux journalistes basés à Paris et qui, visiblement, sont bien branchés, là. Ces femmes qui se coupent les cheveux, qui renoncent au voile, également la répression policière qui continue de s'exercer, notamment à Téhéran, à l'université. Mais ça m'amène à vous parler de cette polémique qui roule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, alors que sur Twitter, vous avez un chargé de cours de l'université McGill qui disait se réjouir de voir l'exécution de centaines de moujahidines, donc ces femmes qui manifestent contre le régime iranien, ces femmes qui ont été arrêtées, évidemment, et tuées lors d'émeutes en Iran. Tout ça a été supprimé sur Internet, et là, l'université McGill, pour l'instant, n'a pas l'intention de prendre des mesures contre le chargé de cours. Or, c'est quelqu'un qui, sur un réseau comme Twitter, se réjouit de l'assassinat de femmes. Difficile à suivre. Dima Machouf est avec nous, militante féministe d'origine iranienne à qui on a parlé il y a quelques jours de ce soulèvement en Iran. Madame Machouf, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je veux bien la liberté d'expression, mais dans un cas comme celui-là, de souhaiter la mort de femmes en Iran, puis de s'en réjouir, c'est un peu poussé fort, là.
Oui, et c'est exactement la question qu'on se pose. On se demande quelle est la ligne à respecter entre la liberté d'expression et l'appel à la haine. Parce que c'est les propos qui ont été publiés dans Twitter par ce monsieur Soroush Shahriari, ce sont pas des mots qui heurterait les sentiments des uns et des autres. C'est des mots qui sont clairement en train de non seulement favoriser le fait que le gouvernement iranien est en train d'attaquer brutalement les manifestants dans les rues, mais aussi il s'en réjouit, il en est content et il est même en train de narguer les gens là-dessus. Il dit à la fin « Oh my God, it is sweet ». Non, ça n'a absolument pas de sens.
Quand vous voyez que l'université, en termes de réponse, dit vouloir offrir un soutien aux étudiants et étudiantes iraniens, mais que c'est la liberté d'expression, même quand les idées exprimées sont de mauvais goût ou blessantes, vous dites quoi là-dessus?
Le fait que cette personne-là, ce monsieur, il soit d'accord avec la répression qu'impose le gouvernement iranien au peuple en Iran, ça lui appartient. Il y a des gens qui sont pour la dictature, ça leur appartient. Mais le fait qu'il se manifeste comme ça, ouvertement, dans un contexte où, premièrement, il dit des faussetés, le fait de dire que tous les manifestants qui sont dans les rues sont des moudjahidines, ça, ce n'est absolument pas vrai. Les moudjahidines, c'est un groupe d'opposants armés au gouvernement iranien. Et le gouvernement iranien, à chaque fois qu'il veut tuer des gens, il dit, ça c'est, ils viennent du groupe des moudjahidines et c'est des terroristes et c'est ça. Ce qui n'est absolument pas correct. Et quand l'université dit, nous on va vous offrir un support, quand cette personne-là à Montréal où il y a beaucoup d'étudiants iraniens qui craignent le gouvernement iranien et l'emprise du gouvernement ici, parce que ils savent qu'il y a des gens, des agents du gouvernement iranien aussi qui sont infiltrés ici dans les différents secteurs de la société à Montréal. Alors, quand cette personne-là manifeste ce genre de propos sur Twitter, les Iraniens, les étudiants iraniens qui sont dans l'université McGill et qui sont pas peu, c'est sûr qu'ils craignent l'environnement que ça crée pour leur sécurité à eux. Alors, quand McGill dit « on va vous offrir un soutien », quel genre de soutien vous voulez que McGill offre à ses étudiants qui craignent que des gens du gouvernement les surveillent? Non seulement en Iran, les gens sont en danger quand ils manifestent dans les rues, mais ces gens-là, ils ont peur de le faire à Montréal et même à l'université McGill. Donc, c'est pas quel support vous voulez que l'université leur offre.
Des gens qui ont encore beaucoup de familles en Iran, des contacts qui ont peur aux représailles là-bas, parce qu'on comprend qu'un campus universitaire, c'est un terrain de prédilection pour des agents infiltrateurs. Là.
Absolument. Et le gouvernement ne s'en cache même pas de faire ce genre de choses. Au début, c'était les gens étaient tués dans les rues. Après ça, les agents de sécurité attaquaient les maisons pour aller chercher les gens qui avaient manifesté. Et même au point où ils se présentent à l'hôpital pour vérifier tous les dossiers médicaux de tous ceux qui ont été blessés et amenés à l'urgence pour après aller chez eux pour les arrêter ou arrêter les familles, au point où les médecins et le personnel infirmier ont fait une grève pour dire que vous n'avez pas le droit de venir à l'hôpital pour chercher de l'information pour aller arrêter les gens. Nous, on est un corps sacré, on doit être neutre. Alors, quand on voit ces choses-là, évidemment, les gens peuvent penser que ici à Montréal aussi, ce genre de personnes pourraient être des éléments qui mettraient leur famille en danger.
Merci beaucoup, Mme Machouf. Je rappelle qu'il y a un sit-in qui est organisé devant l'entrée principale de l'Université McGill ce soir à 18h. Les comptes de taxes vont entrer bientôt. La presse nous apprend ce matin qu'il y a un certain nombre d'arrondissements pour qui l'équation est faite, et ça veut dire pour vous, citoyens, là, parce qu'il y a comme deux volets, la taxe de l'arrondissement puis la taxe de la ville-centre. Ville-centre, on ne le sait pas encore. On a tous vu nos comptes, nos évaluations exploser, la valeur de notre propriété, puis on nous a répondu, faites-vous-en pas. Évidemment, puis c'est vrai, ça ne sera pas à cette hauteur-là. Qu'est-ce qu'on découvre? La taxe locale, d'abord, c'est comme deux mouvements. La ville dit aux arrondissements, on va vous en donner un petit peu plus, mais pas autant que l'inflation, puis pas autant que vous souhaitez. Prenez ça dans la poche de vos citoyens. Fait qu'on donne un petit 2%. Les arrondissements se revirent de bord, ils augmentent, dans certains cas, de 14%. Hochelaga-Maisonneuve. Là, je peux faire la liste. Le plateau Rosemont, puis 10-12%, un peu moins dans certains coins. Ça veut dire que pour le payeur de taxes, c'est une augmentation à la base. 50, 60, 70 $ de plus. Ça, c'est la taxe locale seulement. C'est pas le compte de la taxe de la ville. Il va venir plus tard. Vous pouvez vous mettre dans la tête que votre compte de taxes municipale combiné, là, ça va être quelques centaines de dollars de plus. J'ai pas la preuve de ça, mais voyez-vous, j'essaie depuis ce matin de demander des explications à des maires d'arrondissement. Et on a le top de l'hypocrisie. C'est tellement drôle, puis ils nous prennent pour des valises en plus. C'est encore, disons, comique. Le politique, les maires, nous autres, on est prêts à venir défendre ça. On veut, mais là, il faut demander à l'administration municipale. Puis là, ils nous rappellent tous en disant, malheureusement, à la ville, ils pensent que c'est pas le bon moment, qu'on n'est pas rendu là, que tout le monde... T'es un élu, t'es un homme puis une femme politique, puis tu te fais dicter par des fonds-fonds puis par du personnel politique quoi faire, quoi dire. T'es maire, mairesse d'arrondissement, puis t'as besoin de la permission de l'entourage de Mme Plante pour t'adresser à tes citoyens. Hey, hey! Puis t'essaies de nous faire croire que tu veux venir de deux choses l'une. Ou tu veux pas venir, puis tu nous sers une raison, puis on n'est pas cave à temps plein. Ou encore, t'es vraiment, mais vraiment soumis à la ville. T'es maire ou mairesse d'arrondissement, puis t'es pas capable de venir défendre ça. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie fiscale gigantesque à la ville. Puis comme ils ont été élus, puis qu'il n'y a pas d'élection avant un petit bout, ils nous préparent de joyeuses factures de taxes municipales.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ben, j'avoue, j'ai fait un peu le saut, mais Marc en a parlé tantôt de ce programme à l'école, je dis bien à l'école, de brossage supervisé des dents. On comprend que la santé dentaire, c'est important. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie d'abord l'état de chacun des enfants. Est-ce qu'il y a des caries, pas de caries, etc. Puis là, on demande au personnel des écoles de superviser ce brossage des dents au quotidien dans les écoles du Québec. Projet pilote, c'est volontaire, mais bon. Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourriez-vous expliquer un peu le programme en question? C'est volontaire, c'est expérimental, c'est un projet pilote, ça marche comment?
Ben, j'aimerais vous donner beaucoup plus de d'informations, mais on en a très peu nous-mêmes au niveau du réseau d'éducation. C'est un programme qui a été bâti là, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, on voit qu'on doit superviser le brossage des dents de nos élèves là, du préscolaire ainsi que des élèves de première à sixième année là, qui sont au service de garde. De ce qu'on comprend, c'est oui, ça peut être volontaire, mais c'est pas si clair que ça là, au niveau du programme. Là. Désolé de ne pas pouvoir donner plus d'informations, mais on n'en a pas de notre côté. Là. C'est un peu apparu là, comme un cheveu sur la soupe.
Mais là, comment je dirais ça? Il me semble qu'on vous en demande beaucoup dans les écoles. Là. Je comprends là, que c'est important, comme les enfants qui mangent pas le matin, il faut les aider le plus possible. Des enfants qui ont des besoins particuliers, il faut les aider. Des enfants qui ont besoin d'un spécialiste qui est pas toujours là. Les classes qui débordent, le manque de profs. Mais là, le brossage de dents, ça passe-tu par l'école? Ça? Parlons du principe.
Ben, écoutez, pour nous, la réponse est claire, très, très claire, même si c'est non. On n'est pas contre, là, vous l'avez dit vous-même, là, on n'est pas contre l'hygiène buccale chez nos enfants, c'est important. Mais où s'arrête le rôle du parent, puis où commence le rôle de l'école? Nous, écoutez, aussitôt qu'il y a une problématique dans la société, quelque chose qui ne va pas bien, mais on rajoute une couche... sur le dos de « Allez-y, vous, les enseignants, les éducatrices, les directions d'école, arrangez-vous pour passer votre français, vos maths, quand vous aurez le temps, en deux, trois projets et supervision de brossage de dents. » C'est pour nous, la réponse est non. C'est une responsabilité parentale.
Oui, puis là, mais on va vous répondre. Il y a des parents qui, malheureusement, par négligence, manque d'éducation, s'occupent pas de ça. Semble-t-il que le nombre d'enfants qui ont des caries est en... une augmentation. Bref, c'est à l'école qu'on est capable de les joindre, ces enfants-là.
Oui, c'est toujours la réponse qu'on nous donne. Hein. Bon, c'est facile pour nous de rejoindre tout le monde. On sait qu'il y a des parents qui font peut-être pas leur job. C'est une minorité, mais il y en a malheureusement. Mais en même temps, est-ce qu'on peut travailler justement à la source du problème? Avec des organismes communautaires, avec des hygiénistes dentaires qui étaient déjà dans nos écoles, est-ce qu'eux peuvent travailler avec les parents? La question n'est pas de lancer ça dans la cour du voisin, mais nous, comme enseignants, éducatrices, comme direction d'école, quand nous, on va annoncer ça à nos enseignants, là, qui nous disent déjà, voyons, on a déjà de tâches extracurriculaires une après l'autre, puis on n'a plus le temps d'enseigner. Quand on va leur dire, ben, il faut superviser le brossage de dents en plus, je peux vous garantir que ce ne sera pas la joie là, quand on va annoncer ça. Là.
Pas de maudit bon, ça. OK, merci, M. Prévost. Bonne journée.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Tu peux pas être contre le principe là, de dire qu'il faut que les enfants se brossent les dents. Mais là, si tu es à l'école à faire ça, tu sais, je sais pas, là, il me semble que les profs sont déjà pas mal surchargés. Puis qu'on vienne examiner, je dirais, on va vous donner un exemple, là, beaucoup d'enfants se rendaient pas dans des cabinets pour se faire faire des examens de la vue. Bon, est-ce qu'on peut le faire dans les écoles? C'est-tu pensable? Il y a de l'équipement? Peut-être pas. De les joindre, c'est une affaire. Pour les dents, examiner, Marc disait tantôt, ces filles, là, sont faites examiner, parfait, ça va bien, etc., etc. Merveilleux. Mais après le suivi, là, ça se passe-tu par l'école où vous êtes prof de troisième année, puis OK, on se lave les mains, on se brosse les dents, puis après ça, on se lave les mains à nouveau. Me semble que c'est pas nécessairement nécessaire, là. Déjà que le fardeau est élevé. Juste un mot avant de parler avec Bénédicte concernant ce qui se passe à McGill, là, puis ce chargé de cours qui se réjouit de la mort de femme en Iran. Il y a donc un sit-in ce soir à 18h devant l'entrée principale de McGill, mais il y a beaucoup d'auditeurs avec raison, là. Rappelons-nous le cas de cette prof à l'Université d'Ottawa qui, pour bien moins que ça, s'est fait sortir. Puis que les collègues sont partis après elle parce que les propos avaient été contestés par les élèves qui se sentaient, t'avais le mot en haine, puis bon, qui se sentaient complètement bouleversés puis qu'on n'avait pas tenu compte de leur sensibilité. Ça n'a pas été long, là, que l'université a décidé de procéder. Dans le cas de McGill, là, on attend je sais pas trop quoi. Mais deux universités qui ont comme bizarrement deux visions de la liberté d'expression.
L'essentiel de Paul Arcand.